Vous écoutez
RMC.
Mardi 9 août.
L'info sur RMC.
Il est précisément 6h sur RMC et RMC Story. Soyez tous les bienvenus, très bon réveil. C'est Stéphane Jeunesse qui est là pour le journal. Rebonjour Stéphane.
Rebonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. La résidence de Donald Trump perquisitionnée cette nuit par le FBI. Gérald Darmanin qui promet 10 000 contrôles de police rien que ce mois-ci pour limiter les rodéos urbains. Et Monaco joue sa dernière carte ce soir pour continuer de rêver à la Ligue des Champions.
C'est donc Donald Trump qui l'a annoncé lui-même, sa résidence a été perquisitionnée cette nuit.
Une perquisition de sa célèbre propriété de Mar-a-Lago en Floride menée par le FBI. Donald Trump n'était pas chez lui. Bonjour Garance Munoz.
Bonjour.
Alors l'ancien président des États-Unis a évidemment réagi et il dénonce une persécution politique.
Oui, dans un communiqué, Donald Trump s'indigne. Notre nation vit des jours sombres, ils ont même forcé mon coffre-fort, s'est-il exclamé. Selon les médias américains, cette perquisition relève d'une enquête en cours sur la mauvaise gestion des documents classifiés. En février dernier, déjà, les archives nationales avaient récupéré 15 cartons de documents que Donald Trump avait emportés à son départ de la Maison-Blanche. Dans ces boîtes, des lettres de Barack Obama et de Kim Jong-un, mais aussi des documents classés secret défense. Or, aux États-Unis, le président n'a pas le droit de conserver des documents après son mandat, d'autant que Donald Trump est soupçonné d'avoir déjà voulu se débarrasser d'éléments compromettants durant sa présidence. Le personnel de la Maison-Blanche trouvait régulièrement des liasses de papier bouchant les toilettes, d'après un journaliste du New York Times.
Merci beaucoup Garance Munoz pour ces précisions.
6h02 sur RMC ce matin, ce sont toujours 4 départements qui sont en vigilance orange canicule.
La Gironde, Lot-et-Garonne, le Gard et le Vaucluse. Cet après-midi, les températures devraient atteindre les 34 degrés. La chaleur qui continue et qui va de pair avec la sécheresse qui frappe tout le pays. Un peu partout, à différentes échelles, l'usage de l'eau est encadré, ce qui provoque la colère du maire de Colmar. Sa ville est labellisée au plus haut niveau des villes et villages fleuris du pays. Sauf que voilà, la préfecture lui interdit d'arroser les massifs floraux. Et pour le premier élu de Colmar, ça ne passe pas.
C'est un arrêté totalement absurde qui ne tient pas compte des réalités locales. Toute autre alimentation en eau est réalisée à partir de la nappe phréatique d'Alsace. C'est le plus grand réservoir d'eau en France. Donc on n'a strictement aucun problème d'approvisionnement en eau. On a de magnifiques jardinières. Elles ont besoin d'un verre d'eau chaque nuit, qui est apporté au goutte à goutte, et aujourd'hui, ça n'est plus possible. Si on avait été à Paris, c'était possible. Si on avait été à Strasbourg, c'était possible. Et je n'ai aucun élément objectif qui peut justifier cette discrimination à l'égard de Colmar.
Éric Stroman, le maire Les Républicains de la ville de Colmar.
Et pendant ce temps, une centaine de communes n'ont plus d'eau au robinet. Elles sont alimentées par camions-citernes. C'est le cas de cette commune de l'Aveyron, Mur de Barrès. Je recevrai le maire tout à l'heure à Pierre Ignace à 6h40 sur RMC.
Et puis sur le front des incendies en Aveyron précisément, un important feu est toujours en cours à la frontière du département avec la Lozère. 650 hectares déjà détruits par les flammes. Le feu n'est pour le moment pas contenu.
Un jeune homme de 18 ans mis en examen est placé en détention provisoire après le rodéo urbain de Pontoise, c'était vendredi.
Il reconnaît avoir renversé et grièvement blessé 2 enfants avec une motocross qu'il conduisait. Un autre accident impliquant 2 motards est survenu lui dimanche en Gironde. L'un des 2 motards est toujours dans un état grave. Gérald Darmanin veut donc serrer la vis contre ces rodéos urbains. Il promet 10 000 contrôles rien que ce mois-ci. Et pour Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint Unité SGP Police, même s'il y a plus de contrôles, il sera difficile de faire face à ce problème.
La police est rompue à jour d'exercice. Bien sûr que les 10 000 seront atteints. Après, on reste à savoir quelle efficacité ils auront, puisque ces rodéos sont plus ou moins inopinés. On manque un peu de moyens pour les appréhender. Il faut multiplier les moyens d'identifier ces personnes. On profite de la vidéosurveillance qui est développée par pas mal de municipalités. Et puis, confisquer dès qu'on le peut, parce que, évidemment, sans deux roues, c'est plus compliqué d'en faire.
La justice marocaine a rendu un avis favorable à l'extradition de Sébastien Raout vers les États-Unis. Ce jeune Français de 21 ans, arrêté fin mai à Rabat alors qu'il était en vacances et recherché par la justice américaine. Il est soupçonné de cyberpiraterie contre des grandes entreprises comme Microsoft par exemple. Et s'il est extradé vers les États-Unis puis déclaré coupable, il risque 116 ans de prison. Une situation qui n'est pour le moment pas en faveur du Français, mais il peut encore espérer sa remise à la France, Cyprien Pézeril.
Si la Cour de cassation du Maroc a bel et bien prononcé un avis favorable, l'extradition de Sébastien Raoult n'est pas effective immédiatement puisque cette décision n'est pas suffisante pour le remettre à la justice américaine qui le réclame. C'est au premier ministre marocain et à lui seul que revient le choix final de l'extrader ou non. La famille du Français peut donc encore espérer qu'il s'y oppose même si les chances se réduisent. Pour l'instant, il reste donc au Maroc où il était en voyage avant d'être incarcéré début juin pour cyberharcèlement. Il aurait piraté des entreprises américaines comme Microsoft, et c'est justement pour cette raison que la justice américaine veut le juger. Mais son avocat et sa famille réclament, eux, qu'il le soit en France, puisque c'est ici que les faits ont été commis, chez lui, dans les Vosges. Ses soutiens qui reprochent aux autorités françaises de ne rien faire pour obtenir son extradition.
Cyprien Pézril pour RMC. Et puis c'était il y a 40 ans l'attentat de la rue des Rosiers. Le 9 août 1982, un commando pénètre dans un restaurant cachère, Joe Goldenberg, à l'heure du déjeuner à Paris. Les membres du commando ouvrent le feu, 6 personnes sont mortes, 22 autres blessées. Un hommage sera rendu tout à l'heure sur les lieux du drame en présence d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice.
Il est 6h07 sur RMC et on en vient au budget de l'État pour 2023 dont on connaît maintenant les grandes lignes.
Un budget de 339 milliards d'euros. Alors après l'annonce du ministre chargé des comptes publics, viennent les questions et les demandes de précision, notamment pour concernant la hausse pour l'éducation nationale, une hausse de 3,6 milliards d'euros. Et les syndicats d'enseignants ne sont pas convaincus, Paul Barcelone.
Malgré une hausse historique et inédite du budget de l'éducation nationale, c'est le scepticisme qui domine chez Sophie Venetite, la secrétaire générale du SNES-FSU, un syndicat d'enseignants.
On nous a déjà fait le coup des grandes déclarations avec des grands adjectifs. Il va vraiment falloir des actes très concrets, notamment en matière salariale.
Pour elle, les salaires, c'est bien le nœud du problème, même si le gouvernement promet 2000 euros net par mois pour tous les enseignants.
C'est un début, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Très vite, on va se retrouver dans la situation où les enseignants débutants ont gagné autant, voire plus, que des enseignants qui ont 13 à 14 ans de carrière.
Ces 3,6 milliards d'euros en plus en 2023 doivent aussi permettre de recruter des enseignants, alors que selon le ministère, 4000 postes n'ont pas été pourvus lors des concours cette année. Un réel point d'inquiétude en vue de la rentrée pour Sophie Venetite.
Aujourd'hui, l'éducation nationale est certainement la plus grande enseigne de bricolage de ce pays, vu tout ce qui est mis en œuvre pour essayer de faire tenir la rentrée, mais c'est pas l'ambition qu'on doit avoir pour l'éducation nationale.
Mais le ministère de l'Éducation nationale l'assure encore, il y aura bien un professeur devant chaque classe à la rentrée.
C'est un arrêté publié jeudi dernier au journal officiel qui inquiète le secteur de la petite enfance. Les crèches pourront, dès la fin du mois, recruter des personnes qui ne présentent pas toutes les qualifications requises pour occuper un poste. Et cela alors que la moitié des crèches de l'Hexagone manquent de personnel.
Voilà, recruter des personnels sans formation dans les crèches, ça fait débat. Ce sera le reportage de la rédaction dans quelques instants et je vous attends pour en parler au 32-16. C'est notre débat du jour. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos enfants ou est-ce qu'il faut, après tout, ouvrir le recrutement pour éviter que des places ferment en crèche? Quasiment la moitié des crèches sont en manque de personnel aujourd'hui. 6h09 sur RMC. Le foot à présent et Monaco qui n'a pas le droit à l'erreur ce soir.
Les Monégasques qui affrontent les Néerlandais du PSV Eindhoven en match retour de troisième tour de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul, un but partout. Et Maxime Tillet, au sein du club de la Principauté, on croit dur comme fer à cette victoire ce soir.
Ne pas revivre le cauchemar d'août 2021. Face au Shakhtar Donetsk, c'est au bout des prolongations sur un but contre son camp que l'ASM mettait fin à ses rêves de Ligue des Champions. Le gardien Alexander Nubel s'en rappelle et veut se servir de cette expérience.
Nous avons une année de plus passée entre nous. Tout le monde a joué les deux derniers matchs. Nous sommes forts ensemble et c'est un avantage. C'est un match important pour une qualification. Je pense que l'expérience sera la clé principale pour ce match comparé à l'an dernier.
Même son de cloche pour Philippe Clément, l'entraîneur belge est confiant. Après la victoire 2-1 de ses hommes à Strasbourg ce week-end, il les sent en mesure de s'imposer.
Favori, ça c'est un mot intéressant pour les journaux. Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain.
Et en cas de qualification ce soir, les Monégasques rejoindraient alors les Écossais des Glasgow Rangers ou les Belges de l'Union Saint-Gilloise en barrage d'accès à la Ligue des Champions.
Monaco PSV Eindhoven, c'est évidemment à suivre ce soir à partir de 20h30 sur RMC. Et enfin, sa voix a bercé des générations entières de cinéphiles et de mélomanes. Je vous propose qu'on l'écoute.
Allez.
La voix d'Olivia Newton-John, la chanteuse et actrice américaine star de la comédie musicale Grease est morte. Elle s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Elle avait notamment joué le rôle de Sandy Olson aux côtés de John Travolta. C'était en 78. Puis elle avait ensuite entamé une carrière solo.
Voilà. Comment vous faites le déhanché sur Grease? Parce qu'il faut le maîtriser celui-là.
Il est un peu trop tôt ou un peu trop tard, c'est second.
Le duo culte John Travolta, Olivia Newton-John. John Travolta qui a publié un message hein, cette nuit, hommage assez émouvant à Olivia Newton-John. Je salue Anaïs Castagna qui est arrivée.
Bonjour Sébastien et bonjour à tous.
Angèle Châtelier aussi.
Bonjour,
parce que quand on parle d'Olivia Newton-John,
bah, je suis là, j'arrive.
J'ai fait ce matin.
Non, il est là-haut, je viendrai le chercher. Quand même, pour lui rendre hommage.
Incroyable le succès. Grease, ouais. Film culte 1978
qui a lancé effectivement sa carrière, mais en fait sa carrière ne se résume pas qu'à Grease. Ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est qu'elle a sorti une quarantaine d'albums de country notamment. Elle a même gagné un Grammy Awards, et c'est une prestigieuse récompense musicale pour des albums de country. Donc effectivement, Olivia Newton-John n'est pas que Sandy dans Grease, elle est pour beaucoup.
Et puis elle avait fait l'Eurovision.
Et elle avait fait l'Eurovision la même année qu'Abba. Ouais. C'était Abba qui avait gagné l'Eurovision. Donc,
mais c'est vrai qu'on a retenu que Grease. En France, succès incroyable au cinéma, plus de 5 millions d'entrées. Ça a mieux marché que Les Demoiselles de Rochefort, que West Side Story, etc.
Ouais. 5 millions d'entrées en France.
Je crois que celui qui maîtrise le mieux le déhanché, c'est Anthony Cavani.
ça
rappelle quelques souvenirs.
Ouais, c'était la danse de fin d'année lorsque j'étais en CE2 ou en CM1. J'ai joué
John Travolta
avec le blouson de cuir. Juste pour la danse, hein, mais des images existent.
Mais la banane et les cheveux gominés.
On veut voir ça.
On veut voir la vidéo. Est-ce qu'il y avait un caméscope ce jour-là?
Sans doute.
Voilà, on va rendre hommage à Olivia Newton-John ce matin. Angèle, tu reviendras tout à l'heure, juste avant 8h, nous raconter son histoire. Olivia Newton-John, 73 ans, qui a disparu. John Travolta qui écrit ce message. Tu as rendu nos vies meilleures, je t'aime tant, nous nous reverrons plus tard. Voilà, John Travolta très ému par la disparition d'Olivia Newton-John, qui se battait contre un cancer depuis 30 ans. Elle avait même créé une fondation contre le cancer. 6h13 sur RMC. Très bon réveil. Allez, on remet un petit peu de musique.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin, on va parler du problème de recrutement dans les crèches. Il manque de la main-d'œuvre pour faire face à cette situation. Eh bien, le gouvernement a décidé de faciliter le recrutement, de recruter des gens, y compris qui n'ont pas de diplôme. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que ça vous inquiète? Vous nous dites au 32-16, on y revient dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h14 sur RMC et sur RMC Story. Très bon réveil à tous. Et voilà un sujet qui va faire débat. C'est l'une des conséquences de la pénurie de main-d'œuvre, du manque de personnel qui frappe très durement les crèches. Selon une enquête publiée le mois dernier par la Caisse nationale des allocations familiales, près de la moitié des crèches en France déclarent manquer de personnel, avoir des difficultés à recruter. Il y aurait quasiment 10 000 postes auprès d'enfants vacants aujourd'hui dans les crèches, avec le risque à la rentrée de voir des places en crèche fermées. Alors pour faire face à ce manque de bras, le gouvernement a publié un arrêté au Journal officiel autorisant les crèches de manière exceptionnelle à recruter sans diplôme. Ça veut dire que des personnels qui ne sont ni des puéricultrices ni des assistantes maternelles pourront travailler dans les crèches et garder les enfants. Une mesure d'urgence qui inquiète certains parents et des professionnels de la petite enfance. C'est notre débat du jour et je vous attends au 32-16 pour en parler. Et c'est aussi le reportage de la rédaction que vous allez voir à présent. Il est signé ce matin Florian Chevalet.
Cette possibilité donnée aux crèches d'embaucher des personnes non qualifiées sera forcément source d'inquiétude selon Françoise Brenienec, animatrice au sein de la Maison des Mille Jours, association qui vient en aide aux parents.
Les parents, quand ils confient leur enfant dans une crèche, c'est vrai qu'ils ont à cœur d'être écoutés, que leur enfant soit bien pris en charge, bien accompagné. Et c'est vrai que ça demande quand même une formation à l'écoute, à l'accueil. Donc je pense que des personnes non qualifiées vont avoir du mal à répondre aux angoisses des parents.
Et puis la préoccupation première reste l'enfant, son développement personnel. Nathalie Casso-Vicarini est fondatrice de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance.
Il y a des fondamentaux à connaître sur le développement de l'enfant qui bougent tout le temps. En plus, les connaissances scientifiques sur le sommeil,
l'impact des écrans, etc. Tout ça, c'est à connaître. Ce sont des professionnels qui sont pas formés, qui ont pas ces connaissances-là. Accompagner l'enfant, ça nécessite beaucoup, beaucoup de compétences. On ne devient pas professionnel comme ça.
Mais attention, le décret prévoit quand même des conditions pour qu'une structure puisse embaucher du personnel non qualifié. Seulement une personne par crèche sera autorisée à travailler sans avoir les diplômes. Elle devra être formée et dans un premier temps forcément accompagnée d'un professionnel. De quoi rassurer Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche.
On ne va pas remplacer tous les professionnels de la petite enfance par des gens non diplômés. La petite dérogation créée par l'arrêté du 4 août ne réglera pas du tout le problème de la pénurie. Il sécurise juste des procédures aujourd'hui faites de manière exceptionnelle en posant des règles nationales.
Pour régler justement le problème de la pénurie, il faudra, selon elle, ouvrir massivement des places de formation dans toutes les régions. Éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture ou infirmiers, il manquerait environ 10 000 professionnels dans les crèches aujourd'hui en France.
Voilà, 10 000 professionnels, ça veut dire aussi 10 000 postes vacants aujourd'hui. Comment recruter, comment faire face, c'est le débat du jour et cette autorisation donc de recruter sans personnel. Marc est avec nous au 32-16 ce matin. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ce matin? Qu'est-ce qui fait que vous êtes réveillé bientôt là ce matin?
Ouais, non, ça va encore aujourd'hui, ça va. Trop tôt.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Ah, je conduis des trains.
Ah oui, donc vous avez parfois des prises de service
oui,
aux
ouais,
aurores.
Oui, c'est ça, ouais.
Vous êtes papa?
Oui. Oui, que... j'ai deux filles qui vont à la crèche, une superbe crèche, quoi. Et du coup, moi, je me dis, attends, si on embauche... Mais bon, du coup, votre reportage, là, qu'on vient d'entendre, du coup, ça relativise un peu. En fait, c'est une seule personne qui a encadré. Mais après, je pense pas que c'est ça la solution, en fait. De toute façon, je pense que s'ils n'arrivent pas à trouver, c'est qu'il y a un problème niveau salaire. Après, il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même beaucoup de métiers où on trouve plus personne. Ah oui. Et il y a beaucoup de chômeurs. Alors, il y a un moment, je comprends plus. Parce que même nous, dans les trains, on ne retrouve pas forcément des personnes. Et je me dis pourtant, les gens sont plus motivés à travailler, en fait. Donc, il y a une question de salaire, mais il y a une question, je pense qu'il y a une question
générale. Et de pénibilité, c'est compliqué de travailler dans une crèche. J'imagine que vous le constatez tous les jours quand vous allez déposer vos enfants.
Ah, moi, je pourrais pas travailler dedans. Il y a trop de bruit. En plus, là, moi, ma fille, elle a 1 an, donc elle est avec les tout petits. Donc, c'est quand même compliqué, quoi. C'est un peu ingrat comme métier et il gagne rien, quoi. J'ai une cousine qui travaille là-dedans. Franchement, c'est quand même particulier. C'est bien travailler avec les enfants, mais c'est quand même dur, quoi.
C'est dur et c'est pas forcément effectivement très très bien payé. Il y a ce problème de fond à régler. Il va falloir former des puéricultrices, des assistantes maternelles, des personnels pour s'occuper des enfants. Il va falloir rendre ces métiers plus attractifs, peut-être. Mais alors là, l'argument, c'est de dire finalement, dans l'urgence, c'est ça où on ferme des places. Donc, est-ce que dans l'urgence, en attendant, il faut pas passer par là, quoi?
Ouais, mais bon, dans ce cas-là, si on commence à faire ça pour tout, ça va devenir compliqué, quoi. Les docteurs, il n'y en a plus non plus. Dans ce cas-là, si on fait ça dans l'urgence aussi, non, ça devient compliqué partout, en fait. C'est quand même, franchement, en France, ça commence à devenir vraiment compliqué, quoi. Les gens veulent plus travailler. Après, ils ont peut-être trop d'aide ou j'en sais rien, moi. Mais je me dis, il y a autant de chômeurs. Et quand vous regardez tous les jours, on cherche autant de personnes on trouve plus personne, quoi. Dans tous les métiers, il y a une pénurie. Il y a quand même un problème. Il y a autant de chômeurs et il y a un problème.
Il y a un décalage entre ceux qui cherchent et ceux qui recrutent, semble-t-il. Mais en tout cas, vous n'avez pas confiance, Marc. Vous n'auriez pas confiance de laisser votre enfant à une équipe dans laquelle il y a des gens qui ne sont pas formés, quoi.
Votre reportage, Juratini, c'est une seule personne qui a encadré. Après, j'espère quand même qu'on leur demande un casier judiciaire vierge ou des trucs comme ça. Vous voyez, j'espère quand même que c'est quand même bien encadré. Mais après, si elle n'est pas toute seule, ça va, quoi. Après, j'ai plus confiance de déposer mon enfant dans une crèche et que des fois, vous prenez une nounou. Vous connaissez pas la nounou, vous savez pas ce qui se passe derrière. Donc moi en crèche, ça me va très bien.
Merci pour votre témoignage, Marc, du côté de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et le débat continue sur RMC. Je vous attends au 32-16 sur l'appli RMC, onglet Direct Studio. Vous pourrez échanger tout à l'heure avec Cyril Godefroy, qui est le co-secrétaire général du Syndicat National des Professionnels de la Petite Enfance. On verra ce qu'il pense de tout ça à 8h10 sur RMC. Il est 6h20.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, nos pépites du jour, ce sont nos histoires, les petites histoires du matin avec Anaïs Castagna et avec Quentin Dubois. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien.
En histoire du jour.
Je vous parle d'une jeune américaine qui a inventé une menace terroriste pour une raison très importante, quitter le travail plus tôt.
A tout de suite sur RMC, 6h21.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
6h24 sur RMC, très bon réveil.
Les pépites RMC.
Les pépites RMC, ce sont nos petites histoires du matin avec Anaïs Castagna et Quentin Dubois ce matin. Quentin, on commence avec toi et cette employée américaine qui a lancé une fausse alerte juste pour pouvoir partir plus tôt du travail.
Oui, elle s'appelle Jenya Williams, elle a 18 ans et elle travaille au festival Lollapalooza de Chicago qui se tenait du jeudi 28 au 31 juillet dernier en tant qu'agent de sécurité. Et pour quitter le travail plus tôt, elle a eu une idée. Inventer une fausse menace terroriste.
Alors comment elle a fait ça ?
Vendredi 29 juillet, dans l'après-midi du deuxième jour du festival, vers 15h, elle a envoyé un message anonyme à l'un des organisateurs indiquant qu'une fusillade était prévue à 16h au sein du festival. Sans attendre, l'organisateur contacte la police de Chicago qui prévient le FBI. Une heure se passe et pas d'attaque. Vers 16h15, il a donc informé toute son équipe de la menace. Et à ce moment-là, Jenya a dit à son patron que sa sœur avait vu passer un message similaire sur Facebook. Le chef de la sécurité lui demande donc de lui envoyer une capture d'écran du 10 messages. Sauf que le message n'existant pas, elle a dû créer un faux profil pour le publier. Et comme leur tourne, elle a précisé dans celui-ci qu'il y aurait une fusillade massive au festival vers 18h cette fois-ci. Ah oui,
donc ça va assez loin l'engrenage. Comment est-ce que les forces de l'ordre se sont rendues compte du subterfuge ?
Les enquêteurs ont vite relié l'adresse IP du téléphone via lequel les messages ont été envoyés et donc la publication Facebook. C'est une adresse unique propre à chaque téléphone, ce qui a permis de tracer le compte iCloud de Jenya, compte auquel est relié le téléphone et donc sa vraie identité. Lorsqu'elle a été interrogée sur ses motivations, elle a tout simplement répondu qu'elle avait envie de quitter le travail plus tôt.
Ouais, il y avait plus simple peut-être.
Ouais.
Bon, je sais pas.
Oui. Alors, elle est passée au tribunal. Elle est passée au tribunal hier. La sentence n'est pas encore connue. Et oui, effectivement, plus simple. Hein, les excuses à l'ancienne, hein, je pense, du mal de ventre ou la grand-mère malade. Ça reste plus facile. Ah,
bah on saura ce qu'il en est quand ta grand-mère sera malade.
Ah, hein, je vais être surveillée maintenant. Je suis jamais malade, ça va.
Ouais, elle risque gros à mon avis.
Elle était en prison, caution de 50 000 $. Mais à mon avis, elle ne devrait pas en sortir.
Elle risque gros parce qu'on joue pas avec les fausses alertes, hein, les appels anonymes, etc. Anaïs, nous allons à Étretat, en Seine-Maritime. Les habitants en ont marre des fans de la série Lupin.
Oui, Lupin, c'est la série avec Omar Sy qui cartonne hein, sur Netflix depuis sa sortie en janvier 2021. Plus de 70 millions de vues en moins d'un mois. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en gros, Omar Sy joue un homme qui va s'inspirer de son héros Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur créé par l'écrivain Maurice Leblanc pour venger son papa. Dans la série, on voit les fameuses falaises d'Étretat et la fameuse aiguille creuse de Maurice Leblanc. Et ça a eu un impact absolument énorme sur la ville normande qui a vu sa fréquentation exploser depuis 2021. Et il y a eu 1 million de visiteurs l'an dernier. Le chiffre d'affaires du Clos Lupin, l'ancienne maison secondaire de Maurice Leblanc, a été multiplié par 300 et ce malgré les mois de fermeture. Alors vous allez me dire,
mais de quoi il se plaît,
bon. Ouais, c'est plutôt bon pour les commerçants. Oui, mais ça ne plaît pas à tout le monde. La directrice du musée dit que c'est trop. Ils ont l'impression d'être devenus un musée Omar Sy. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. Les habitants sont excédés de voir autant de touristes débarquer chez eux. Ça crée des embouteillages, des problèmes pour se garer. La mairie a du mal à gérer et a peur de perdre ses habitants. Elle ne veut pas devenir une attraction touristique comme l'a été, comme l'est devenu, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande, oui, après le succès du film La Plage avec Leonardo DiCaprio.
Les problèmes écologiques que ça posait, là, c'est une ville. Enfin, je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut.
DiCaprio.
Enfin, je veux dire, ils ont dû probablement trouver un accord avec la série pour le tournage. C'était aussi l'exposition mondiale que ça leur a apporté. Je pense qu'ils y gagnent.
Oui,
quand
mais
même.
En même temps, moi, je comprends.
Ce qu'on veut.
Je comprends les habitants, si tu vois.
Oui. Le côté tourisme de masse.
Qui arrivent, qui veulent prendre leurs photos, leur selfie, tu sais comment
faire. Je pense que les restaurateurs, ils se plaignent pas, mais bon.
Oui, évidemment, pour le commerce, c'est bon. Mais après, est-ce que c'est aussi agréable à vivre? Et surtout, est-ce que cette ville va pas perdre son âme? C'est ça aussi la question.
Eh bien voilà, la question est posée. Est-ce que Lupin va la série Netflix qui effectivement qui rend la ville de Trotta envahie par les touristes. 6h28 sur RMC, dans un instant la météo et le journal. 6h30 sur RMC, très très bon réveil à tous. Tout de suite votre journal avec Alexandra Sirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. 10 000 opérations de contrôle pour lutter contre les rodéos urbains. La réponse du ministre de l'Intérieur, quelques jours après l'hospitalisation de deux enfants renversés par une moto. C'était il y a 40 ans, l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Le premier hommage national sera rendu aujourd'hui. Hommage très attendu par les proches des victimes. Et puis un comeback, celui de Britney Spears, 6 ans après son dernier album.
Mais d'abord, on s'arrête sur cette belle histoire ce matin.
Oui, un jeune garçon de 12 ans a sauvé une famille entière de la noyade. C'était à Biarritz ce week-end. L'adolescent était en pleine séance de bodyboard lorsqu'il s'aperçoit qu'une famille de 5 personnes est en détresse et décide de partir à leur rescousse. Amandine Réau l'a contacté pour RMC.
Fan de bodyboard, Julien passe ses journées dans l'eau chaque été à Biarritz. Dimanche soir, il nage tranquillement sur sa planche quand soudain, il entend des appels à l'aide.
Au début, je pensais que c'était une blague et au fil que je me rapprochais, je voyais qu'ils étaient en danger.
3 personnes sont accrochées au rocher, une mère de famille avec son neveu et sa nièce, tous les deux malentendants. 2 autres sont dans l'eau, en détresse, un enfant de 6 ans et son père qui a les jambes engourdies. C'est eux que Julien ramène sur sa planche.
C'était un peu mouvementé dans ma tête parce que je savais pas trop comment gérer ça, mais au final, ça s'est bien passé.
Et ça s'est bien passé parce que Julien vient de terminer un stage de sauvetage côtier, un hasard de calendrier.
On a appris à ramener les gens dans l'eau qui est en train de se noyer, on va dire. Du coup, j'ai appliqué cette technique. En attendant les sauveteurs, je les ai ramenés le plus que je pouvais. Vu qu'il y avait énormément de courant, il y avait la planche qui était reliée à une corde. Et on était 6 à se relayer pour les tirer, du coup.
La famille, ses parents, mais aussi les maîtres nageurs, tout le monde félicite et remercie Julien.
À la fin, la famille est sortie de l'eau et ils m'ont remercié, ils m'ont pris dans ses bras et voilà, ils étaient très contents et je pense qu'ils se sont fait très peur.
Hier, la famille a retrouvé le numéro de Julien pour le remercier encore une fois. L'adolescent en est plus certain que jamais. Son premier job d'été, ça sera maître nageur.
Témoignage RMC recueilli par Amandine Réau. 4 jours après avoir renversé 2 enfants lors d'un rodéo urbain à Pontoise, le suspect, un jeune homme de 18 ans, a été mis en examen et écroué. Le pronostic vital de l'une des deux victimes, une fillette de 7 ans, reste engagé. Un autre accident a eu lieu ce week-end en Gironde avec 2 adolescents blessés cette fois-ci. Face à ces rodéos qui se multiplient, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, assure vouloir intensifier les contrôles de police.
J'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale, pour ce mois d'août, l'intensification encore de ces contrôles et je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants, il n'y a pas d'autre mot.
Alors, est-ce que ces contrôles seront suffisants? Les policiers se disent démunis face à ce phénomène puisqu'ils ont la consigne de ne pas engager de course-poursuite. Ils se retrouvent finalement nargués par ces jeunes à moto. À 7h40, je reçois ce matin Stanislas Godon. Il est le délégué général du syndicat de police Alliance. Il nous dira comment mieux lutter contre ces rodéos urbains et j'attends vos témoignages également au 32-16.
RMC 6h33, c'est une commémoration très attendue aujourd'hui, 40 ans plus tard, le premier hommage national pour les victimes de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Cet attentat terroriste contre un restaurant juif a fait 6 morts et 22 blessés. C'est donc un hommage très attendu par les proches des victimes rencontrées par Maxime Lévy.
Un premier hommage national, 40 ans après l'attentat. Natacha Goldenberg n'y croyait plus.
Il n'y en a pas eu pour les 30 ans, il n'y en a pas eu pour les 20 ans. Il a fallu attendre 40 ans. C'est même pas que ce serait réalisable. Et je pensais que ça les intéressait toujours pas.
Une cérémonie officielle rue des Rosiers, là où se trouvait le restaurant de son grand-oncle attaqué en 1982 par un commando terroriste 40 ans plus tard. Il ne reste plus que les mosaïques et son nom, Goldenberg, écrit sur la façade.
C'est un devoir de mémoire. Il y a un côté émotionnel personnel qui me renvoie évidemment à mon grand-oncle, à mon père, qui est important pour moi aujourd'hui. Et cet hommage national, c'est un hommage national pour eux, avant toute chose.
Mais cet hommage n'est qu'une première étape pour Natacha. 40 ans d'attente et toujours aucun procès en vue. Si un des suspects a pu être extradé de Norvège en 2020, il en reste encore 3.
Vu les circonstances, ça me paraît difficile. Mais je veux garder l'espoir qu'enfin la diplomatie aussi va se bouger et faire extrader les 3 autres commanditaires de l'attentat. On sait où ils sont, on sait qui ils sont. Ça serait bien qu'ils soient jugés en France.
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la justice avait estimé il y a une semaine que le suspect localisé en territoire palestinien était inextradable.
Maxime Lévy du service police-justice de RMC. Dans l'Aveyron, 1200 personnes ont été évacuées cette nuit. 650 hectares ont brûlé depuis hier, dès 7h ce matin. Trois Canadairs vont arriver en renfort.
Il est 6h35 sur RMC. L'actualité du football, c'est l'AS Monaco qui se déplace sur la pelouse du PSV Eindhoven ce soir.
Oui, en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Match à suivre en direct sur RMC. Les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1 partout la semaine dernière lors du match aller. L'entraîneur monégasque Philippe Clément assure que ses joueurs sont déterminés à se qualifier.
Nous n'avons pas besoin plus de confiance. La confiance est là, mais aussi le réalisme. C'est une bonne équipe. PSV, ils ont montré. Ils ont une force offensive très grande, mais nous sommes aussi conscients de nos qualités. Les joueurs, ils ont travaillé vraiment fort les dernières semaines, les derniers mois pour être prêts. Nous sommes très déterminés pour nous qualifier.
Et puis un autre grand retour ce matin, celui de Britney Spears. Après 13 ans de tutelle, l'icône de la pop va sortir une nouvelle chanson et elle sera accompagnée d'Elton John. On retrouve tout de suite Angèle Châtelier du service culture de RMC. Angèle, que sait-on pour l'instant de ce titre?
Eh bien, nous avons des informations au compte-gouttes. Hein. Le titre déjà, Hold Me Closer, Tiens-moi plus près, une chanson inspirée des paroles de Tiny Dancer, tube d'Elton John. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais vous le disiez, Alexandra, c'est la première fois que Britney Spears reviendra après avoir été libérée de la tutelle de son père, ce qui avait fait beaucoup de bruit. Elton John, lui, a fêté récemment ses 75 ans et il est toujours sur scène. Il était notamment en juin dernier à la Défense Arena en France, face à 40 000 spectateurs.
Merci Angèle Châtelier. Et puis les courses, le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome de Deauville à 18h aujourd'hui. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, le favori c'est le numéro 2, Harper, l'outsider, le numéro 6, San Cristobal, le 2 et le 6. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Alexandra Sirgan pour le journal à 6h37 sur RMC. On n'a pas le titre encore, hein. On ne sait pas à quoi il va ressembler.
On n'a rien, pour l'instant.
De Britney Spears.
Bon, on a hâte.
On sait. On suivra tout ça. À tout à l'heure, Angèle, merci beaucoup. On va repartir au 32-16. Laetitia est avec nous ce matin. Bonjour Laetitia.
Oui, bonjour.
Comment ça va ce matin?
Ça va, merci.
Vous
ça
nous appelez d'où, Laetitia?
J'appelle du Val-de-Marne.
Très bien. Okay. Vous vouliez réagir, vous êtes à Créteil précisément. Vous vouliez réagir à ce débat sur les crèches, le gouvernement qui autorise les crèches à recruter sans diplôme. Pas le choix, disent les crèches, on ne trouve plus de personnel. Ça vous inquiète? Vous avez des enfants, vous, Laetitia?
Non, je n'ai pas d'enfants, mais je suis une ancienne professionnelle de la petite enfance. C'est pour ça que le sujet m'a fait réagir.
Ah oui, d'accord. Vous avez travaillé en crèche?
Oui, tout à fait. Oui. J'ai travaillé pas mal de temps en crèche et également en dehors des crèches pendant pas mal de temps avec des enfants.
Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas suivi ses diplômes de puériculture, par exemple, peut venir en crèche travailler et s'occuper des enfants?
Je pense que c'est un problème, mais c'est pas forcément le seul problème de fond. En fait, il n'y a pas seulement le problème de la formation. À mon avis, si aujourd'hui, dans les crèches, on manque de professionnels à ce point, c'est pas seulement... il manque des personnes diplômées, hein. C'est par rapport à plusieurs choses, notamment effectivement, comme disait le premier intervenant, effectivement il y a un manque de reconnaissance au niveau salarial, hein. Faut savoir que dans les crèches, en fait, vous avez trois stades de personnes, hein. Vous avez les CAP, les auxiliaires et les éducatrices. Voilà, une auxiliaire et un CAP vont faire le même travail, hein. Mais vont être rémunérés de la même manière. Donc il y a déjà un problème à ce niveau-là.
Donc manque de reconnaissance, finalement, ce que vous dites, c'est qu'on paye le problème. Là, on voyait qu'il manque 10 000 personnes, il y a 10 000 postes non pourvus dans les crèches aujourd'hui. On paye le manque de reconnaissance, les salaires trop bas, les horaires difficiles, c'est ça? Ces métiers n'attirent plus aujourd'hui, du coup?
Non, ça n'attire pas. Et parce qu'effectivement, c'est un métier difficile. Il faut avoir les nerfs solides. Hein. C'est compliqué de s'occuper d'enfants. C'est éreintant. Et après, pour moi, justement, l'autre problème, c'était ça. C'est qu'aujourd'hui, on permet d'avoir des crèches où les enfants sont en surnombre. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans une crèche où on accueillait 90 berceaux.
c'est-à-dire 30 enfants par section, hein, 30 chez les petits, 30 chez les moyens, 30 chez les grands. C'est énorme. Voilà. Il y a un problème, selon moi, au niveau des taux d'encadrement.
Et vous étiez combien pour vous occuper de ces 90 enfants?
Alors, dans l'idéal, faudrait qu'on soit... en fait, vous avez 8 professionnels. Alors, on était pas mal. Hein.
Vous étiez le nombre légal, quoi, quand même.
Oui, oui, ouais. Il y a un nombre légal, mais ça peut arriver à certains moments que la professionnelle se retrouve avec plus d'enfants qu'il n'en faut. Je veux dire, quand vous avez 30 enfants dans une section, c'est quand même énorme. Ça demande une attention de tous les instants. Donc effectivement, il faut que le nombre de professionnels soit adapté.
Ouais, et puis il faut voir aussi que ces derniers mois, en plus avec le Covid, etc., il y a eu beaucoup d'absentéisme et on a vu aussi des personnels qui se sont retrouvés un peu seuls face aux enfants dans des situations difficiles. On conseille de parler de cette situation dans les crèches, si vous y travaillez, si vous êtes vous-même parent, venez débattre au 32-16. Faut-il élargir le recrutement à des personnes non diplômées pour justement pallier au manque de personnel dans les crèches? Merci beaucoup Laetitia pour votre témoignage, ancienne éducatrice justement dans la petite enfance dans ces crèches. Merci beaucoup. 6h41 sur RMC.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Et justement, on en reparlera dans une demi-heure sur RMC avec une autre éducatrice spécialisée en petite enfance, Émilie Philippe. Elle est porte-parole du collectif Pas de bébé à la consigne. Ça fait des années qu'elle alerte sur le manque de personnel et le manque de reconnaissance dans les crèches. Son témoignage à 7h10. Et puis à 7h40, les rodéos urbains après le drame de Pontoise. Deux enfants grièvement blessés par une motocross. Le gouvernement veut davantage de contrôle. Je reçois cette 40, Stanislas Godon, le représentant du syndicat Alliance, pour voir quels sont, si ces contrôles peuvent être efficaces et s'il faut muscler les méthodes de la police face à ces rodéos urbains. Et j'attends aussi vos témoignages au 32-16. D'ici là, on va parler de la sécheresse, Anaïs.
Oui, on sera avec le maire du village de Laveron, Pierre Ignace. Face à la situation, sa commune est désormais alimentée en eau grâce à des camions-citernes. C'est le parti pris du jour. A tout de suite.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h moins le quart sur RMC et RMC Story.
Le parti pris.
Le parti pris du jour, c'est le vôtre, Pierre Ignace. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Vous êtes le maire de Mur-de-Barrez. C'est dans l'Aveyron, commune qui, comme des dizaines d'autres en ce moment, n'a plus une goutte d'eau. Vous êtes ravitaillé par camion-citerne. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il va falloir tout revoir en termes de politique de l'eau. Déjà, expliquez-nous dans quelle situation se retrouvent vos habitants. Clairement, s'il n'y avait pas ces camions-citernes aujourd'hui, il n'y aurait plus une seule goutte au robinet?
Ces camions-citernes nous permettent de tenir au niveau de notre centrale d'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, ils apportent à peu près 400 mètres cubes sur les 1300 mètres cubes qui sont consommés sur notre territoire.
7 camions-citernes pour 7 villages, hein, c'est ça? Vous avez en plus des habitants supplémentaires l'été, vous avez combien d'habitants?
On peut monter à peu près 5000 habitants. On est sur un bassin de vie de 3000 habitants en temps normal à l'année et on monte jusqu'à 5000 habitants sur notre bassin de vie du Carladès.
Alors normalement, c'est un cours d'eau qui vous alimente. Son débit aujourd'hui est au plus bas, débit divisé par 3 par rapport à l'année dernière. Et alors, pourtant, vous aviez fait construire une station de retraitement des eaux qui aujourd'hui ne sert à rien, elle ne peut pas fonctionner, il n'y a pas d'eau.
Elle est en fonction. Comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a un apport de 400 mètres cubes sur les 1300 qui sont consommés. Aujourd'hui, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience peut-être un peu tardive dans l'esprit général sur les effets du réchauffement, sur la sécheresse. Mais ça doit nous permettre, dès demain, de nous projeter sur les alternatives, sur la préservation de la ressource en eau.
Alors, à quoi vous réfléchissez? Vous préparez à ce que cette situation se reproduise, que le cours d'eau soit à nouveau à sec? Quelles solutions alternatives vous pouvez trouver?
Alors oui, aujourd'hui, on se prépare. Hein. Il y a, comme je le disais, une vraie prise de conscience. Donc, on se prépare à ce que ça se reproduise. Ce genre de situation, ça fait déjà quelques années qu'on a des sécheresses qui se multiplient. Donc, demain, tout doit être envisagé, que ce soit des retenues d'eau, pour pouvoir alimenter, qui se constituent en hiver et qui permettent d'alimenter sur ces périodes l'usine de traitement d'eau. Ça doit être une politique sur la récupération des eaux de pluie, que ce soit pour les particuliers comme pour nos éleveurs. Ça doit vraiment balayer tous les champs concernant notre politique et notre façon de gérer l'eau.
Aujourd'hui, vous sauvez le coup, en quelque sorte, avec ces camions-citernes, mais vous vous attendez à ce que ça dure des mois, potentiellement. Quand est-ce que vous pouvez éventuellement retrouver de l'eau au robinet?
On a de l'eau au robinet, je le précise.
Oui, vous avez l'eau des camions, mais je veux dire de l'eau via votre cours d'eau et via votre alimentation normale, en quelque sorte.
Dès les premiers orages, les premières averses, le cours d'eau qu'on a, donc qui s'appelle le Cynique, est un cours d'eau donc qui monte assez vite, qui a un débit qui monte assez rapidement dès les premiers orages.
D'accord. Il n'y a pas de risque de coupure aujourd'hui pour les habitants?
Aujourd'hui, tout est fait et géré par la communauté de communes Aubrac, Carla des Viadennes et les élus pour qu'il n'y ait pas de coupure. On a augmenté la cadence des camions, leur volume. Demain, tout est prévu pour qu'il n'y en ait pas, avec encore des alternatives de prélèvement d'eau dans d'autres lacs à proximité. Et le pire est envisagé, et on espère ne pas avoir à s'en servir. C'est-à-dire que des stocks de bouteilles d'eau ont été constitués par la communauté de communes.
L'eau qui est ramenée par ces camions est potable aujourd'hui?
Oui, elle est potable et traitée après, derrière, automatiquement dans l'usine.
D'accord, elle est retraitée par vos soins. Vos habitants, ils jouent le jeu, ils économisent l'eau, ils font attention. Là, tout le monde est conscient sur place que la situation est extrêmement tendue chez vous.
Oui, c'est un des facteurs clés, la mobilisation de la population. Et c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on communique avec les services de la communauté de communes, l'ensemble des communes, auprès des habitants, auprès des touristes. Et c'est vrai qu'on voit que ça joue le jeu, vraiment. Les gens sont sensibilisés, alors il faut le rappeler régulièrement. Mais les gens sont mobilisés, sont conscients de l'enjeu et que la ressource en eau est en danger, concrètement.
Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin. Pierre Ignace, maire de Mur-de-Barrez, donc village de l'Aveyron, une commune donc en grande difficulté aujourd'hui et qui doit être approvisionnée par camion-citerne. Et je vous attends au 32-16 si vous voulez témoigner également ce matin sur la sécheresse. Il est 7h10.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre dans un instant, ça vous concerne, Anthony Kazmarek. Vous allez répondre à cette question simple. Que faut-il boire pendant la canicule?
Eh bien, il faut boire beaucoup, ça c'est sûr, mais beaucoup d'eau. Pas d'alcool, surtout pas. Pas de boisson non plus diurétique comme le thé, le café. Et surtout, il faut boire à température ambiante. Pas d'eau trop fraîche, pas d'eau trop froide, c'est très mauvais.
N'en dites pas trop plus, on y revient dans un instant. À tout de suite.
Tiens, RMC.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
6h53 sur RMC.
Ça vous concerne.
Ça vous concerne, votre rendez-vous conso avec Anthony Kazmarek chaque matin. Et dans cette vague de chaleur, quelques recommandations, Anthony. Et cette question simple, que faut-il boire pendant cette vague de chaleur?
Alors d'abord, il faut boire, oui, mais il faut boire de l'eau et pas n'importe comment, à commencer par la quantité d'eau nécessaire à notre corps. 1,5 litre en moyenne par jour, en règle générale, mais les médecins conseillent d'aller jusqu'à 2 litres pendant les fortes chaleurs, et pas plus, car au-delà de 2 litres par jour, les reins ne peuvent pas suivre et ont tendance à éliminer les sels minéraux. Il faut globalement boire un verre d'eau par heure, soit l'équivalent de 20 centilitres. Je vous rappelle que notre corps est composé à 65% d'eau, c'est donc essentiel pour son bon fonctionnement.
On a quand même le droit de boire autre chose que de l'eau ?
Alors oui, vous en avez le droit, évidemment, mais il faut malgré tout limiter leur consommation pendant une période de canicule. Les eaux pétillantes sucrées, par exemple, on oublie, car elles favorisent la déshydratation, tout comme les jus de fruits et les sodas. Parce que oui, le sucre donne soif, car un excès de glucose dans le sang conduit à une plus grande activité rénale, donc on élimine plus. Et puis l'alcool, qui est dans tous les cas à consommer évidemment avec modération. L'alcool est une très mauvaise idée pendant la canicule. Boire par exemple une bière a un double effet diurétique et déshydratant. C'est le combo fatal. Alors si
alors
néanmoins...
ça donne l'impression contraire. Hein,
exactement.
C'est complètement,
exactement. Mais si vous cédez quand même à la tentation, vous y avez le droit, et bien buvez la même quantité d'eau pour compenser. Et puis surtout, mangez pour éponger, si j'ose dire. Un tout dernier conseil, n'hésitez pas à boire des soupes de légumes. C'est conseillé car elles contiennent à la fois de l'eau et des sels minéraux.
Et du thé, on boit chaud.
C'est pas très
forcément
fun,
non plus.
C'est pas très fun,
non plus le thé, le café, donc pas de boisson
dans le
trop
désert,
chaude.
Ils boivent du thé, non?
Oui, mais pas trop chaud parce que sinon on transpire, et puis surtout pas d'eau trop froide non plus, parce que dans ce cas les vaisseaux sanguins se contractent et on dépense beaucoup d'énergie.
Ni trop chaud, ni trop froid, beaucoup d'eau et on évite le sucre. Merci Anthony Kaczmarek pour ces conseils très concrets. On te retrouve pour la météo dans un instant.
RMC s'engage pour vous.
D'abord, RMC s'engage pour vous avec Johanna Chabaz. Bonjour Johanna.
Bonjour.
On rouvre des dossiers tout au long de l'été et ce matin, vous nous reparlez de la petite Swan, 5 ans, atteinte d'autisme. Ses parents vous avaient écrit à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr.
Oui, Swan est née prématurément. Elle souffre de troubles de l'autisme. À l'école, elle a donc besoin d'un AESH, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Quelqu'un qui est en fait là tous les jours avec elle à l'école pour l'aider à se concentrer, pour qu'elle soit bien en classe. Sauf que quand sa famille nous écrit en septembre, aucun AESH n'est disponible à cause du manque de personnel. Swan a dû faire sa rentrée en grande section seule. Et pourtant, selon ses parents, un accompagnement est absolument nécessaire pour la petite.
Swan a vraiment besoin que quelqu'un soit toujours là pour la ramener à la réalité, en fait, parce que sinon elle se met un peu dans son monde. Elle s'invente plein de personnages et puis elle a de gros troubles sensoriels, donc elle supporte pas le bruit, la lumière. Du coup, elle erre dans la classe et du coup, les apprentissages ne se font pas. Ça nous inquiète beaucoup parce que on se sent démunis, on peut rien faire. Voilà, c'est devenu très compliqué pour elle d'aller à l'école.
Alors, vous avez pris des nouvelles. Est-ce qu'une solution a été trouvée?
Eh bien oui, quelques jours après notre reportage, comme l'Académie nous l'avait promis, un AESH a été trouvé. C'est Fabienne. Elle connaissait déjà Swan, mais cette année, elle était seulement à temps partiel, 6 heures par semaine avec la petite fille. Ça reste un soulagement pour son père, Pascal.
Ça marche entre ma fille et Fabienne, et puis c'est tout ce qui compte. Elles ont réussi à créer une relation de confiance toutes les deux, même avec nous, vraiment l'échange se fait super bien. Donc on va retenir le positif, c'est-à-dire que même si elle était pas, Fabienne n'était pas présente à temps complet, elle était là au moins 2 heures par matinée. On est soulagé parce que sinon, en fait, on partait sur une année scolaire où Swan n'aurait pas été accompagnée. Ça aurait été une année presque perdue, quoi.
Et surtout, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'à la rentrée, Fabienne deviendra l'AESH officielle de Swan. Elle sera donc avec elle à temps plein et la suivra tout le long de sa scolarité.
Voilà, des bonnes nouvelles. Voilà, l'équipe d'RMC, quand vous prenez des choses en main, il se passe des choses et on est content de prendre des bonnes nouvelles ce matin. 6h58 sur RMC.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.